France Inter.
À vous qui balado diffusez cette émission. Je rejoins mon bistrot pour l'apéro avec Michel Agier. Il est anthropologue, spécialiste du racisme et il passe beaucoup de temps au Brésil notamment. Regardez là-bas, c'est le fameux anthropologue Michel Agier. Là, c'est moi qui l'observe. Je vais le faire venir dans mon bistrot. Bonjour Michel Agier.
Enchanté, merci. Je suis ravie d'être là.
Mais oui, moi aussi, je suis ravie.
De vous rencontrer.
Moi aussi, et je suis ravie que vous veniez faire escale dans mon bistrot avant de repartir au Brésil.
Demain, c'est ça.
Oh là là. Ça a l'air sympa, ce métier d'anthropologue, on va en parler. Venez vous asseoir.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Michel Agier, vous êtes ethnologue et anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, entre autres directions, et vous avez travaillé sur les migrations, l'hospitalité ou le racisme. Vos terrains de recherche, Lomé au Togo, Salvador de Bahia au Brésil, Douala au Cameroun ou Cali en Colombie, et vous publiez « Racisme et culture au seuil », où vous revenez aussi sur votre parcours, Michel Agier. Et alors là, bon, Michel, faut qu'on parle, parce que plus vous étudiez le racisme, plus il se répand. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, Michel?
C'est un sujet qui a mis du temps à arriver dans les sciences sociales, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre un ouvrage majeur, qui est l'ouvrage de Colette Guillaumin, qui s'appelle L'idéologie raciste, en 1972.
Ah, une femme donc.
Une femme, et d'ailleurs qui a ensuite enchaîné avec des études sur le sexisme, et donc je pense qu'il y a effectivement des correspondances entre racisme et sexisme. Et elle l'a fait en 72, c'est-à-dire un an après un ouvrage majeur que je commande beaucoup dans mon livre, qui est de Claude Lévi-Strauss, qui s'appelle « Race et culture ». Et à la fin de cet ouvrage, Lévi-Strauss disait « Bon, ben, c'est bien beau tout ce que je vous ai raconté là, mais ça sert à rien, parce que de toutes les façons, c'est des prétextes pour des racistes, pour raconter n'importe quoi. » Et empêcher le vivre ensemble.
Alors, chose extraordinaire. Oui, c'est ça. Donc, Lévi-Strauss fait partie de ceux qui prouvent par la science que la race n'existe pas.
À un moment où, effectivement, beaucoup de biologistes, généticiens, etc., ont dit c'est un concept qui sert à rien pour décrire les populations humaines, mais il y a quelque chose là, et c'est aux autres sciences, aux autres savoirs de s'en occuper, la philosophie et les sciences humaines. Moi, j'ajoute l'histoire aussi, parce que la dimension historique est très importante.
Parce que, donc, biologiquement, la race n'existe pas, mais comme l'humain a construit le racisme, c'est comme si maintenant elle existait, donc il faut pouvoir l'étudier.
C'est ça, voilà. La race n'est pas une vérité biologique, mais c'est une réalité sociale. C'est ça qui est difficile à intégrer, mais je pense qu'il faut tenir les deux choses en même temps. Ça n'est pas suffisant maintenant de dire et redire, comme ça a été dit depuis les années 70, non, les races n'existent pas, quand on voit qu'il y a des gens qui subissent les effets de cette idéologie, et dont on peut dire, moi j'utilise ce terme-là, même s'il est dans les catégories des termes qu'on ne peut plus utiliser, mais je dis, ce sont des gens qui sont racisés, qui eux font cette expérience dans leur vie quotidienne, la recherche d'emploi, les problèmes de logement.
C'est-à-dire qu'on a tellement intégré cette construction, quel racisme, qu'on emploie maintenant le terme racisé. C'est comme si la biologie avait perdu, là, quand même.
Oui, d'une certaine façon, évidemment. Mais ça a mis du temps, c'est-à-dire depuis la découverte par les Européens des autres peuples, on va dire au XVe siècle, jusqu'au XIXe siècle, avec la fixation de cette idéologie dans ce qui a été appelé d'une manière carrément une fake news, théorie des races. C'était évidemment pas une théorie, c'était des élucubrations voulant mettre la race blanche, c'est-à-dire les Européens qui, à ce moment-là, avaient le pouvoir sur une grande partie du monde, au-dessus de tous les autres. Et donc, on a inventé ce racisme. Et donc, ça a produit des races et des races inférieures. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des gens qui constatent que tout ça n'a aucun sens, mais ça a un effet. Quand on est dans les sciences sociales, on s'intéresse aux effets des croyances, aux effets des idéologies.
Le racisme, c'est l'un de vos anciens sujets d'études et vous y revenez. Pourquoi maintenant? Vous voulez retrouver un petit peu de votre jeunesse, Michel?
Oui, il y a un petit peu de ça. J'ai voulu remettre à profit tout un parcours. C'est l'avantage de l'âge. On a accumulé un certain nombre d'expériences qui produisent un savoir particulier. Quoi.
Donc, fort de cette expérience, c'était maintenant qu'il fallait y revenir.
C'est maintenant, parce que j'ai publié pas mal d'ouvrages sur cette question des réfugiés, des migrants, des migrations, des conditions d'accueil, de l'hospitalité, etc. Et je m'aperçois que plus il y a des recherches sur les migrations, avec notamment la création de l'Institut Convergence Migration, où sont affiliés 600 chercheurs en France qui travaillent sur ce sujet. Donc il y a une énorme connaissance qui est accumulée sur les migrations internationales. Et pourtant, on entend régulièrement, alors même, par exemple, que là, ces derniers mois, on a pu voir que les entrées irrégulières en Europe ont diminué. Et bien, à ce moment-là, on entend des gens qui disent « On n'a jamais eu autant de submersion migratoire. » Et donc, à ce moment-là, on se dit « Bon, ben, il y a quelque chose d'autre là-dessous. » Là-dessous, il y a ce que j'appelle justement l'infra-pensée raciste.
C'est votre nouvelle trouvaille, ça, Michel. C'est-à-dire que vous dites, fort de mon expérience d'ethnologue et d'anthropologue, je reviens à l'étude du racisme. Et c'est ça, cette infra-pensée raciste, c'est votre... Voilà, c'est le nouveau concept que vous avez trouvé, c'est ça?
Oui, c'est un nouveau concept. Concept. C'est un mot dont j'avais besoin. C'est-à-dire que je voulais aller plus loin que l'idée de l'idéologie raciste, qui est comme si c'était un système tout fait et dont on pourrait être étranger, hein, qui serait autre, ou bien le système de culture du racisme qui peut fonctionner, mais pour moi c'est pas assez précis. Et donc je dis maintenant, il y a quelque chose dont nous héritons tous, quel que soit notre vote aux élections, et donc je ne juge pas particulièrement les électeurs du Front National, etc. Je dis, nous héritons tous en Europe de ce passé européen qui est un passé impérial. Des historiens ont parlé de l'occidentalisation du monde à partir du 15e, 16e siècle, si vous voulez. Et donc, on a eu cette domination européenne sur le monde qui s'est traduite par une domination raciale et dont nous héritons tous, même sans le vouloir. Et puis, c'est infra, parce que ça ne mérite pas vraiment le nom de pensée. C'est un tissu d'ignominie.
On l'a intériorisé, alors. C'est ça que vous voulez dire?
On l'a intériorisé, on ne sait pas comment, et c'est un peu ça la culture. Il y a des choses dont on hérite, on ne sait pas comment.
Non, par exemple, si je dis le mot « migrant » plutôt que « réfugié », ou si je dis « immigré de la deuxième génération ».
De la troisième, même.
Ce qui m'est déjà arrivé de prononcer.
Oui,
je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est en vous lisant que je me rends compte que j'ai de l'infra-pensée raciste.
C'est ça, et vous utilisez tout ce qu'on a en France, qui peut paraître très bizarre quand on vient d'un autre pays. On entend le langage français, on emploie des fois le mot « ethnique » quand on veut dire en fait « racial ». On emploie le mot « culture » quand on veut dire les autres qui sont visiblement dans une altérité. On emploie le mot « issu de la diversité ». Qu'est-ce que ça veut dire « issu de la diversité » littéralement? Ça veut rien dire. Sauf qu'en France, en français, ça veut dire quelque chose qui est cette espèce de mélange. Et donc, on désigne comme ça... ce que dans d'autres pays on appelle des sociétés multiraciales. Quelque chose a été créé par cette longue histoire qui est maintenant l'infra-pensée raciste ou qui est aussi ce qu'on appelle le racisme structurel dans d'autres pays. En France, on utilise le terme de racisme systémique. Ce racisme-là, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas si on ne veut pas s'y intéresser. Si vous voyez un étranger américain blanc, vous n'allez pas dire « Tiens, c'est un migrant qui nous submerge ». En revanche, un Américain noir a été pris au Maroc pour un Africain, et donc il a été mis en prison jusqu'à ce qu'il réussisse à prouver qu'il était Américain.
Alors, je me rends compte que quand j'étais en Belgique, je ne parlais pas d'immigrés de deuxième génération, c'est en arrivant en France. Donc en fait, en ayant une infra-pensée raciste, ça veut dire que je suis hyper bien intégrée à la France en tant que Belge.
Parfaitement, oui.
C'est affreux. Et mais dites-moi, Michel, j'ai une impression, donc comme vous êtes scientifique, vous allez avoir une réponse scientifique à mon impression, que la société, elle évolue quand même vers plus de tolérance, de prise de conscience, de la diversité, des dominations. Et le racisme ne cesse d'être décomplexé et de s'étendre. Les deux vont de pair ?
Les deux vont de pair, et là, il y a un conflit. C'est-à-dire que les sociétés se transforment, le monde se transforme. Il y a évidemment la mondialisation avec des circulations, c'est pas seulement propre à la France, le monde entier voit des gens qui circulent, qui viennent d'ailleurs. Des unions se font, des unions conjugales, on fait des enfants. Ces enfants sont métissés, hybrides. On a des familles de plus en plus transnationales dans le monde entier. Et cette réalité-là produit quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que quand on a effectivement cette situation, on a des gens qui disent « moi aussi j'appartiens à cette société, donc je demande la parole, je veux avoir une égalité de parole ». Et donc quand vous avez effectivement des gens qui demandent l'égalité de parole, là vous avez en retour, et c'est ce qu'on voit avec effectivement beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, avec des gens qui se lâchent, comme on dit, qui font remonter cette infra-pensée, en général, des gens blancs qui, du coup, vont se redécouvrir blancs et vont dire « Mais non, mais moi, j'ai des privilèges et je veux pas qu'on me les prenne. »
Ça, c'est vraiment l'esprit du colon qui est assiégé par les barbares, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a beaucoup d'études historiques, anthropologiques, qui ont montré que déjà, à l'époque coloniale, il y avait ce discours des colons disant « On va se faire envahir par les Africains ». Voilà, ça, c'est l'éthos du colon. Voilà, c'est l'éthos du colon avec le regard du colon qui se reproduit finalement un petit peu dans cette complication que produit la mondialisation. Bien sûr que la mondialisation produit une complexité dans l'existence. Mais justement, moi, je défends dans d'autres ouvrages, déjà avant La Condition cosmopolite, j'ai défendu l'idée que nous vivons de plus en plus des situations de frontières. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens ou des situations dont on n'a pas les codes, dont on n'a pas le langage, dont on n'est pas habitué à l'apparence, on ne sait pas ce qu'il mange, il mange des trucs bizarres, etc. Et tout ça, ça peut créer une réaction de peur, ou c'est là qu'il faut avoir du courage.
Ou de curiosité.
De curiosité. Ouais. Et du courage en disant, tu t'assois, je te donne un verre d'eau, on va parler.
Je comprends mieux, quand on parle de la jungle de Calais, c'est de l'infrapensée raciste, c'est notre passé colonial, ce qu'on comporte.
Absolument. Alors là, c'est la dimension, comme on dit souvent, du racisme structurel, c'est-à-dire c'est devenu cognitif. On ne le sait même plus. Dans mes travaux antérieurs, j'ai dirigé un programme qui s'appelle Babel, et là, on a fait toute une enquête collective des chercheurs avec des gens du mouvement associatif dans la dite jungle de Calais. Et on se dit, il suffit de se décentrer, d'y aller, là, dans cet endroit, on s'aperçoit qu'on est très bien accueilli. Toute la réalité sociale se remet en place. On peut parler avec des gens, on peut manger, on mangeait très bien dans la jungle de Calais. Il y avait les meilleurs restaurants afghans. Ouais. Je pensais que la ville de Calais aurait dû en profiter.
On a reçu dans Bistroscopie Camélia Jordana, qui a passé du temps, et ses souvenirs, c'est l'accueil incroyable.
Voilà, c'est ça.
Et donc, en fait, dans la jungle de Calais, on est accueilli par des gens qu'on repousse.
Pour eux, la jungle, c'est dehors, c'est les autres qui les agressent.
C'est ça,
Parce que là, il y a une agressivité. Et ça, on le ressent même quand on est associatif, anthropologue ou chercheur ou je ne sais quoi. Mmh. On se met là, on s'installe, on s'assied avec des gens comme vous faites avec moi. Mmh. Et on commence à discuter. Et là, dehors, c'est encerclé par des camions de police. Il y a des incursions. Il y a de la submersion policière. Et d'autant plus que ce lieu s'établissait d'une manière relativement pacifique alors qu'il avait été ghettoisé. Et donc tous les processus du racisme depuis les premiers ghettos, si on veut, l'histoire des ghettos, que ce soit le ghetto juif au XVIe siècle, que ce soit les ghettos américains à la fin du XIXe siècle, cette histoire de ghetto avec sa dimension raciste, elle se reproduit avec l'histoire de la jungle de Calais. Si
vous voulez. Vous êtes français, vous êtes blanc, votre premier terrain d'étude c'est le Togo, à Lomé. Comment vous, en tant qu'ethnologue, anthropologue au Togo, vous gérez ce passé colonial ? Et comment vous êtes accueilli ?
J'étais un jeune chercheur, j'étais doctorant, donc j'étais très demandeur par le métier d'anthropologue ou par habitude personnelle. J'ai une envie d'échanger, de parler et d'écouter les gens. Et donc je suis arrivé dans un lieu un peu étrange qui était un quartier venait d'être déguerpi violemment. Les gens avaient été repoussés à la périphérie de la ville de Lomé. Et mon projet de recherche, on va dire, qui est devenu ma thèse, c'était de comprendre comment est-ce que les gens de cette expulsion du centre de la ville se réorganisaient. J'ai appris la langue haoussa, j'ai pu parler avec les gens. J'ai fait connaissance avec des jeunes de mon âge. Ça, c'était important pour créer une relation. Et je leur ai dit, je voudrais comprendre comment ça marche, c'est vous, expliquez-moi. Et j'ai fait l'enfant. L'ethnologue est un enfant qui arrive quelque part, qui dit, je comprends pas, je sais pas comment vous vivez, est-ce que vous pourriez m'expliquer
quelque
chose ? Vous jouez
à Candide.
Voilà, exactement. On joue à Candide. Éventuellement en se moquant, mais surtout en reconnaissant qu'il y a là toute une richesse que je ne connais pas et que j'ai très envie de connaître. Et donc cette envie de connaissance, elle est plus forte que tout le reste. Même s'il y a des choses qui me sont bizarres, des choses qu'on me renvoie, effectivement, toi le blanc, tu viens des quartiers blancs, qu'est-ce que tu viens nous voir ici ? Au Togo, en tout cas, ça s'est passé d'une manière...
Mais ça, c'est du racisme anti-blanc ou c'est pas du racisme anti-blanc ?
Alors voilà, ça c'est très intéressant, cette question-là. Alors ça, elle ne s'est pas du tout posée, comme je l'expliquais au Togo, dans ma première enquête. Au Cameroun, ça a été un autre terrain, ça a été le terrain d'après, j'étais un petit peu plus mature. Et là, je me suis trouvé, je ne savais pas trop par où commencer une recherche, et on m'avait donné les coordonnées de quelqu'un dans un quartier, qui est le quartier New Bell, qui est un peu le grand bidonville de la ville de Douala. Et là, donc, je ne me suis pas fait très bien recevoir. Et là, on m'a dit, effectivement, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu viens des quartiers blancs. Et donc, ça m'a amené après à refaire toute l'histoire du Cameroun et à comprendre cette situation dans laquelle je m'étais trouvé. Moi, Douala, quand j'y suis arrivé, je sais bien que ça n'est pas l'Afrique du Sud, mais pourtant, j'ai eu l'impression d'un apartheid urbain très net. d'un apartheid social avec des riches et des pauvres, et accessoirement, même si ce n'était pas uniquement ça, un apartheid racial, où effectivement il y avait une population blanche très nombreuse à Douala, qui m'a ramené à des propos racistes ou à des attitudes soit paternalistes, soit violentes à l'égard des gens de Douala, qui m'a ramené à cette histoire coloniale. Si vous voulez. Alors dans cette situation où je me suis trouvé et où on m'a dit « qu'est-ce que tu fais là, toi ?» etc., etc., j'aurais pu dire « ah ben ça c'est du racisme anti-blanc ». Donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, et j'ai compris que c'était des gens, et comme c'est toujours le cas, c'est des gens qui sont ghettoisés, littéralement, par toute une histoire urbaine, qui est aussi coloniale et qui est aussi raciale, et donc ils réagissent, ils protègent leur quartier.
Alors ça me rappelle, j'ai passé beaucoup de temps au Burkina Faso, et dans les rues de Ouagadougou, on me disait « hé la blanche » quand on ne me connaissait pas, et il y a une époque où on m'appelait, alors que je suis belge, « hé la Sarkozy ».
Ben oui, ben oui, oui, oui.
C'était après le discours de Dakar.
Ben
non,
oui.
Ça me faisait rire.
Oui, c'est ça.
Dire que ça ne me plaisait pas trop. En fait, je plaisantais, je répondais par la plaisanterie et ça permettait d'établir le contact.
Voilà.
On se vannait.
Ben, la plaisanterie, c'est une
donc
des manières.
Donc, je ne l'ai pas ressenti comme du racisme anti-blanc.
Oui, oui.
Il existe ou pas, fondamentalement ?
Ben, on peut l'appeler racisme anti-blanc et moi, je l'appelle une forme de résistance, une forme quand même d'interpellation, parce qu'on vous interpelle. Donc si on vous interpelle, c'est qu'on a envie d'avoir un échange.
Ah, et d'établir quand même la connexion.
Ben oui. Ouais. Et toi, là. Et à la fin de cette histoire, il y a quelqu'un qui vient me dire « Hey, white man, come. » Comme c'est très anglophone aussi, ville de Douala.
Mais alors, Michel Agier, comment est-ce qu'on est passé de la couleur de peau, de la pigmentation en fait, à l'identité raciale ?
Il n'y a pas que la couleur de peau, il y a tout un tas de choses qui sont des marques en apparence biologiques ou des marques d'apparence. Moi, je dis il y a un procédé de domination qui consiste à naturaliser la domination, de quelque manière que ce soit. Mm-hmm. Quand le ministre israélien de la Défense dit « tous les habitants de Gaza sont des animaux humains », il ne désigne pas particulièrement la couleur de peau, d'autant plus que dans l'histoire, les Juifs étaient des Arabes. Donc la distinction physique, phénotypique, n'est pas du tout évidente. Simplement, on sait très bien que dans le conflit du Proche-Orient, il y a une forme de racisme qui est devenue un racisme anti-arabe. On ne sait pas pourquoi, comment, par quelle magie sociale tout ça s'est inventé. Mais un ministre israélien d'extrême droite peut dire « ce sont des animaux humains ».
Est-ce que... dans l'autre sens, l'antisémitisme est un racisme ?
Alors ça, c'est une question très intéressante. Je pense que oui, c'en est un, et qui commence par une mise à l'écart, puisque précisément le premier ghetto dans l'histoire des ghettos qu'aujourd'hui on associe au ghetto noir, le premier ghetto est le ghetto de Venise, avec le décret. Et là,
C'est quoi le ghetto de Venise ?
Ben, le ghetto de Venise, c'est le mot ghetto de Funghetto, l'île de la fonderie. Et donc il y a un décret, et le décret de la ville de Venise, c'est le décret de ségrégation. Le décret de ségrégation consiste à dire aux juifs, marchands, étrangers, qui circulent dans la ville de Venise, vous pouvez circuler dans la journée, mais le soir, vous avez votre lieu qui est sur l'île.
C'est l'invention de l'apartheid.
C'est l'invention du ghetto, en tout cas. Et là aussi, on est dans une race imaginaire, puisqu'on produit l'identité qui va devenir après une identité qui se reproduit elle-même dans cette position-là, et qui a donné toute cette histoire juive qui ne se résume évidemment pas à l'histoire d'Israël. Je crois qu'il y a toute une histoire juive qui est une histoire de cosmopolitisme, qui est une histoire de circulation, mais toujours une histoire de confrontation et de mise à l'écart dans l'histoire mondiale des Juifs.
Michel Agier, vous écrivez « Racisme et culture » paru au Seuil. Donc est-ce que la culture peut aussi aider à lutter contre le racisme ?
C'est ça l'idée.
Ouais. De renverser la domination, symboliquement,
ou de créer d'autres situations. Voilà, je fais tout un développement sur qu'est-ce qu'on entend par culture. Et la culture, c'est aussi la performance culturelle. C'est-à-dire, c'est la culture en train de se faire. C'est comment se fabrique la culture. Et pour les anthropologues, c'est ça la question. C'est pas le tableau quand il est fini. C'est le tableau quand il est en train de se faire. Et donc, c'est la performance. C'est tous les jours, c'est vous tous les matins qui arrivez, qui avez un sujet social, une critique à faire à l'ordre qui est en place,
ouais,
et qui inventait quelque chose qui peut être marrant, qui peut être pas marrant, qui peut être n'importe
généralement,
quoi.
Généralement, c'est marrant quand même, Michel. Hein.
Oui, en général, en général. Mais la performance, c'est ça. Et la performance des carnavaleux que j'ai étudiés dans différents pays.
Ça, on va en parler.
Voilà.
Eh ouais.
C'est la performance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un espace, par exemple la rue du carnaval, dans lequel on se dit, on est autorisé à produire une autre image de soi et une autre image du monde que ce qu'on a tous les jours.
Ouais. Puis la rue est au peuple.
Et c'est exactement la rue est au peuple.
Mais ça, on va en parler, Michel. Voilà. On va, parce que je me rends compte aussi donc, que le matin, quand je fais une chronique, rigolote, attention.
Oui, 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 oui.
J'organise.
En vrai, vous êtes vraiment.
C'est comme si j'organisais une fête païenne, un carnaval dans la matinale, en fait.
Ça, vous pourriez le faire, voilà.
Mais voilà. Ça va finir comme
avec
ça, je vous le dis.
Avec des patoucades. Avec de la patoucade.
On va ambiancer le 7-10, ça va être foufou, ils sont pas prêts.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous venez d'allumer le poste, vous tombez en plein apéro avec Michel Agier, anthropologue, ethnologue, spécialiste du racisme, des migrations, de l'hospitalité. Vous publiez « Racisme et culture » paru au Seuil. Votre premier terrain d'étude, c'est le Togo. Et puis, vous avez suivi le chemin, finalement, de la déportation des esclaves en arrivant à Salvador de Bahia, où là, c'est le carnaval, donc, qui attire votre attention et qui est devenu votre sujet d'étude.
Oui, alors j'étais pas carnavaleux au départ, pas spécialement.
J'ai l'impression qu'on s'amuse bien quand on est anthropologue.
J'ai fini par aimer beaucoup le carnaval, mais avec quand même une fonction d'observation autant que de participation. La rue est au peuple, c'est ce qu'on dit à Salvador chaque fois que commence le carnaval. On dit à Rua e do Povo. Et à ce moment-là, effectivement, tout un tas d'associations, de groupes, de quartiers, de petits groupes d'amis, etc., forment des bandes qui vont défiler dans la rue du carnaval, qu'on appelle des blocs, hein, blocos. Et là, 20 ans avant que j'y arrive, en 75, un groupe de jeunes noirs du quartier Liberdade, qui est un très grand quartier noir et métis de Salvador, décide de faire un groupe dans lequel il n'y aura que des noirs, pas de blancs. Et, comme première annonce, ils disent « les Africains arrivent à Bahia ». Ça crée évidemment un événement considérable, puisqu'ils se font traiter de racistes par toute la presse, tous les responsables politiques, les élites quoi, en général, les médias et les politiques. Il y a cette réprobation en disant « vous êtes raciste ». Et il y a un terme que je reprends dans le livre, parce que je le trouve très beau. Ces jeunes-là prétendent ajouter à la lutte des classes le spectacle de la lutte des races. Et moi, quand j'y arrive dans les années 90, j'arrive de Lomé. J'ai traversé l'Atlantique Noir, comme on dit, voilà. Et là, à ce moment-là, je dis, non, mais vous, vous n'êtes pas africain, vous êtes brésilien. Et là, on dit, non, on va te montrer qu'on est africain. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une culture, une éducation, un projet éducatif qui est né aussi. Ce groupe est devenu très important, est devenu massif. Maintenant, il sort dans le carnaval avec 3000 personnes qui sont dans le groupe. Alors que la première fois, c'était une centaine, pas plus.
Et il faut dire que quand ils vous disent à vous « on va te montrer qu'on est africain », ça, vous ne le racontez pas dans le livre, mais ils vous mettent dans une marmite et vous font cuire.
Pas du tout.
Ah bon ?
Non, mais ce
j'ai
qui
trop
se passe,
lu Tintin.
Ce qui se passe, effectivement, c'est que moi, à la différence de beaucoup de collègues et d'intellectuels, médias, politiques brésiliens, je trouvais tout à fait logique ce qu'ils étaient en train de faire.
Vous découvrez aussi qu'au Brésil, il y a tout un nuancier d'une centaine de teintes de peau. Il y a une gamme chromatique.
Depuis les années au moins 50, on demandait la couleur de peau aux gens. Dans un premier temps, c'était l'enquêteur ou l'enquêtrice qui notait ce qu'il voyait. Et là, depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est les gens qui déclarent ce qu'ils veulent qu'on enregistre comme étant leur nom. Ce qui est très intéressant parce que ça a fait monter le nombre de gens qui se disent noirs. Puisqu'il y a des gens qui sont métis, mais ils se sont dit « moi, je suis noir ». Et alors, avant ça, dans les années 90, il y a eu un institut de statistiques qui a, pour essayer de déconstruire un petit peu, de comprendre ce mécanisme de l'identification raciale, qui a fait une enquête spéciale sur, si vous êtes dans le contexte du recensement, mettons, vous dites ce que vous voulez, qu'est-ce que vous dites ? Et c'est là où on trouve 135 nuances de gris, si on peut dire.
Ouais, ouais. Exactement.
135 nuances de gris entre le blanc très blanc et le noir bleu. Quand on dit celui-là, il est bleu, ça veut dire il est noir, ça brille. Quoi.
Ah oui, et, le plus noir du noir, il est bleu.
Il est bleu, voilà, c'est ça. Et, le blanc, il y a le couleur orange.
C'est un schtroumpf.
Et le couleur,
je ne vais pas avoir des problèmes, moi, avec cette émission.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens mettent tellement de nuanciers qui défont cette binarité du noir-blanc. Ça, c'est une manière d'interpréter. Et là, les gens en jouent. Quand ils disent « je suis couleur de fourmi », par exemple, ou « je suis couleur de châtaigne », ou « toi, tu es couleur d'orange ».
C'est ça. Autant rire et utiliser les codes.
Et le défaire. Et on ne voit plus, dans ce cas-là, le nombre de gens qui disent le mot « noir » et le mot « blanc » deviennent ultra minoritaires par rapport à cet ensemble. Alors ça, ça a été contesté par d'autres, notamment maintenant, qui disent « là, vous êtes dans la soumission à ce système d'identification raciale, il faut affirmer votre race, votre culture, votre identité. Mm-hmm. Et donc, oui, je suis noir, je suis très noir, même négant, ça veut dire très noir, et je m'affirme dans cette identité, et je vous la mets en face, quoi. »
Autre question, vous êtes on veut dire chercheur en sciences sociales, et sciences et sociales, c'est tout ce qui emmerde les autoritaires en ce moment. Je ne peux pas vous avoir en face de moi, Michel Agier, et pas vous soumettre la question des chercheurs américains, dont les thèmes de recherche sont censurés dès qu'ils parlent de racisme, etc. Claude Lévi-Strauss aux USA, il aurait été cancellé, et vous, impossible de faire vos recherches aux États-Unis. Pour autant, au Brésil, sous Bolsonaro, vous aviez des difficultés ou pas ?
Non, il n'y en a pas actuellement, mais c'est dans l'air du temps, à l'échelle globale. En France, on a eu c'est arrivé quand ? En 2020, ça a commencé, 2019-2020, avec un certain ministre de l'Éducation nationale qui a commencé à dire « vous êtes wokiste ». Mmh. Vous êtes des islamo-gauchistes.
Vous utilisez le terme blanc de race. Et ça finissait par Caire.
Voilà, c'est ça. Donc on a ça dans l'air du temps. J'ai été plusieurs fois aux États-Unis pour y donner des conférences, mais y faire des cours. Y séjourner pendant plusieurs mois. Et évidemment, très bien accueilli. Je pense que maintenant, ça pose un problème. Effectivement, il y a une espèce de tremblement du monde général. C'est parce qu'il y a des progrès dans la reconnaissance du besoin d'égalité entre tous, et notamment de rompre avec le racisme et de rompre avec le sexisme. On a des mouvements masculinistes qui sont, on le voit bien, des réactions à MeToo. Donc des gens qui ont peur dans leur masculinité. Mmh. Eh bien, c'est la même chose sur le racisme.
Et justement, comme la culture, vous disiez tout à l'heure, est aussi un remède contre le racisme et une inversion des dominations, etc., est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que la culture, on coupe dans ses budgets, on ne l'encourage pas tellement et
C'est un même mouvement. C'est un lieu d'expression, et là, je pense qu'il y a un conflit. Il ne faut pas dire, mais non, c'est un faux conflit. Oui, il y a un conflit, là, qui passe par la question du savoir, qui passe par la question culturelle, dans ce qu'expriment ces formes culturelles ou ces performances culturelles, qui pour moi sont importantes. Bon, ben, y a un risque, comme pour le savoir. Effectivement, hier, je donnais une conférence avec le HESS et des bibliothèques de Paris, et le président de le HESS faisait remarquer, avant que je parle, que tout ce dont j'allais parler, c'est un ensemble de mots qui, maintenant, sont interdits aux États-Unis.
Ce sera bientôt plus à le HESS que vous allez faire ça, mais dans des caves.
Le danger existe, mais je pense qu'il faut pas être complètement pessimiste. C'est un conflit et il faut que ce conflit se déroule.
Oui, faut qu'il ait lieu, mais qu'on laisse pas faire même.
Non, mais bien sûr, mais c'est l'objectif d'une révolution conservatrice, c'est-à-dire conserver un ordre comme si cet ordre était naturel. Et donc tout ce qui relève de cet ordre social qui est là et qu'on ne doit pas toucher, c'est la domination masculine, la domination blanche, la domination du Nord sur le Sud, etc., etc. Tout ça, en réalité, est en train de trembler parce qu'on n'a pas vu que l'Europe était provincialisée, comme disait un historien indien il y a déjà 40 ans qu'il a dit ça. L'Europe est provincialisée dans la géopolitique, mais aussi dans la représentation du monde, on va dire. Et là, on découvre qu'on ne veut toujours pas que l'Europe soit provincialisée. Mais si, le monde, il est dans la réalité, il serait pour moi idéalement cosmopolitique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder le privilège d'être européen qui correspond au privilège d'être blanc et regarder le monde comme il est. Il y a des gens de toutes les couleurs, des gens qui se croisent, et il y a des gens qui revendiquent des droits à la parole de partout. Mmh.
Voilà. J'ai une dernière question, Michel Agier. En vous lisant et en me rendant compte de ce que c'était l'infrapensée raciste, je me suis rappelé mon arrivée en France, et quand même j'arrivais au milieu de 30 ans où les Français se foutaient allègrement de la tronche des Belges. Et aujourd'hui, je trouve ça assez violent. Et je me demande si je suis pas en train de réaliser que qu'il y avait une espèce d'infra-pensée raciste envers les Belges, parce qu'on a quand même bien morflé, sous couvert de blagues. Est-ce que j'ai tort de penser comme ça? Ou est-ce que la société française était un peu violente, même vis-à-vis de ses voisins les plus proches?
Je pense que vous avez tort.
Non, mais ça vous fait... c'est parce que vous êtes français, vous voulez pas voir les choses en face, c'est tout. Vous voulez pas voir que pendant 30 ans, vous êtes foutu de la gueule des Belges. Mais voilà, c'est ça. Non, mais non, c'est pas nous. C'est votre pensée infracoloniale de français, Michel Agier, qui vous fait pas reconnaître que vous êtes foutu de la gueule des Belges. Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais des blagues de voisins, si vous voulez, il y en a partout. C'est une manière de reconnaître la frontière entre la France et la Belgique, quand même. Elle n'est pas facile à trouver. Et donc, c'est une manière de dire, là, il y a une frontière. Voilà. Et c'est de créer une petite différence. Alors peut-être qu'après, là-dessus, il peut y avoir des choses qui se greffent là-dessus. C'est un sujet, d'ailleurs, qui est intéressant, mais qui nous mènerait très loin. Et c'est la différence culturelle. Moi, je n'associe pas la question de la différence culturelle au racisme. C'est un petit peu la fausse piste de Lévi-Strauss dans son premier texte de 1952, quand il disait « Maintenant, quand la race, vous vous trompez, c'est en fait la différence des cultures, etc. » Je pense que non, c'est autre chose. C'est-à-dire la différence des cultures avec la mondialisation, la globalisation, les communications, etc. On y est confronté tous les jours, à la différence des cultures. Alors avec les Belges, c'est pas compliqué, pas trop compliqué, parce qu'on parle, en tout cas les Belges francophones, on parle la même langue. Mais déjà, il y a des différences de langue, il y a des différences d'habitudes, il y a des différences de manières de faire, de se représenter, c'est quoi la vie en société, etc. Et donc à chaque fois, il y a, moi j'appelle ça des situations de frontières. Il y a une relation qui se crée dans ces contextes-là, où on a besoin d'un apprentissage, on a besoin d'un accompagnement. Les professions d'avenir, il faut le dire à tous les petits-enfants, c'est traducteur et médiateur. Ça, c'est des professions d'avenir.
Eh bien, vive l'avenir! Vive la médiation! Merci beaucoup, Michel Agier.
Merci à vous.
Je vous laisse prendre votre envol vers le Brésil. Vous allez étudier, faire un bilan de la politique des quotas au Brésil, c'est ça, hein?
C'est ça.
On attend votre retour et donner des cours, bien sûr. Je rappelle, Racisme et culture, que je vous recommande chaudement, parce que j'ai compris plein de choses qui se sont éclairées dans mon petit cerveau, paru au Seuil. Michel Agier, bon voyage.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, Lucien Lefebvre à la technique et Anne-Laure Cochet au mixage. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 en compagnie de Bérénice Béjot.